pense souvent qu'une école d'ingénieur, bon, c'est la haute technologie, l'innovation, mais figurez-vous qu'on peut y trouver des espèces protégées, comme la vipère à spic, ou même des insectes assez rares, genre le grand capricorne. C'est plutôt inattendu, hein? Et pourtant, c'est ce qui se passe à IMT Atlantique, une grande école d'ingénieurs française. Aujourd'hui, on va explorer un peu leurs initiatives pour la biodiversité. On a pas mal de documents pour ça, des plans stratégiques, des rapports d'inventaire scientifique très détaillés faits par des naturalistes, des plans d'aménagement et même des travaux d'étudiants, des notes internes. L'idée, c'est de décortiquer comment une école comme ça, dont le cœur de métier, ben, c'est pas vraiment les sciences du vivant à la base, comment elle intègre concrètement la biodiversité dans sa stratégie, dans la gestion de ses campus et même dans la formation des futurs ingénieurs. Et on va regarder ça sur leurs trois campus, Brest, Nantes et Rennes. Alors, comment on passe d'école d'ingé à refuge pour la biodiversité? Apparemment, ça part vraiment d'une décision stratégique forte, c'est ça? C'est écrit dans leur plan 2023-2027. Il y a cet axe, la politique de transformation écologique et sociétale, c'est ça, la politique TESS. Et dedans, la biodiversité est un objectif clair.
C'est ça, et c'est vraiment le point de départ essentiel. Ce n'est pas juste une action isolée, un petit projet comme ça. Non, c'est un engagement stratégique, bien ancré. D'ailleurs, cette démarche, elle est reconnue. L'école le met en avant, notamment via des classements internationaux comme TIE Impact. Ce classement, il évalue l'engagement des universités sur les objectifs de développement durable de l'ONU, les fameux ODD. Et la biodiversité, ODD 14 et 15, bah, ça compte.
D'accord, donc ce n'est pas juste pour l'image, c'est une vraie orientation qui est même évaluée. Mais sur quoi il se base pour agir? J'imagine qu'on ne s'improvise pas spécialiste de la biodiversité comme ça, surtout dans ce type d'école.
Non, bien sûr. Et c'est là qu'intervient, disons, la rigueur scientifique. Leur démarche, elle s'appuie très clairement sur des diagnostics, des cadres internationaux, notamment ceux de l'IPBES.
Cité et les services écosystémiques, ils se basent sur leurs rapports, comme celui de 2019 qui était assez alarmant sur l'état de la biodiversité mondiale, ou aussi sur des travaux plus récents qui montrent bien le lien très fort entre le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité, des travaux issus de séminaires communs JEQIPBES. Donc on voit bien, la stratégie, elle n'est pas basée sur l'intuition, c'est sur la science.
C'est solide comme base. Bon, alors, la stratégie, c'est une chose, mais le terrain, c'en est une autre. Parlons des campus. Trois sites, Brest, Nantes, Rennes, ils sont comment ces campus?
Ils sont assez différents en fait. Nantes, c'est à peu près 13 hectares, mais la moitié est bâtie. Brest, c'est comparable, surface et ratio similaire. Rennes, par contre, c'est plus petit, beaucoup plus urbain, juste 2 hectares, et là aussi la moitié est bâtie. Donc on a des contextes qui vont du périurbain à l'urbain dense.
Et malgré ces différences, il y a des actions communes qui sont menées sur les trois sites.
Oui, il y a un socle commun. Par exemple, les trois campus sont labellisés Refuge Alpéo.
Ah oui, la Ligue pour la protection des oiseaux. Ça implique des engagements concrets, j'imagine.
Oui, ça veut dire mettre en place des aménagements, des pratiques de gestion favorables aux oiseaux, préserver leurs habitats. Et ils ont aussi tous adhéré à la charte Regain de Bretagne Vivante.
Bretagne Vivante, une association naturaliste locale importante. Et cette charte Regain, elle vise quoi?
Elle vise à recréer des écosystèmes fonctionnels, même dans des espaces qui ont été aménagés par l'homme, comme un campus. L'idée, c'est de redonner une place à la nature, de la laisser s'exprimer un peu plus.
Concrètement, recréer des écosystèmes, ça se traduit comment sur un campus? Moins de béton, plus de verre?
En partie oui, mais c'est surtout dans la gestion que ça se joue. Une des mesures clés, c'est ce qu'on appelle la gestion différenciée des espaces verts.
La gestion différenciée, j'en entends de plus en plus parler. Fini le gazon coupé court partout.
C'est exactement ça. Fini la tonte uniforme. Ils ont complètement revu les plans de tonte. Certaines zones, près des bâtiments ou pour la détente, sont tondues régulièrement, bien sûr. Mais beaucoup d'autres zones sont laissées plus tranquilles. On tond moins souvent, plus haut, parfois on fauche tardivement et on enlève l'herbe coupée. L'idée, c'est de laisser la végétation se développer.
Pour créer différentes hauteurs, différents milieux, c'est ça?
Tout à fait. Des herbes hautes, des zones un peu embroussaillées, ça offre des refuges, de la nourriture pour plein d'insectes, d'oiseaux, de petits mammifères. C'est une approche beaucoup plus écologique et souvent ça permet aussi de réduire les coûts d'entretien, la consommation d'eau. C'est gagnant-gagnant.
Logique. Mais pour savoir où laisser pousser l'herbe et où tondre, il faut bien savoir ce qu'il y a sur place, non? J'imagine qu'on ne gère pas pareil une zone avec une orchidée rare ou une pelouse toute simple.
Absolument. C'est pour ça qu'une étape vraiment cruciale, ça a été de faire des inventaires naturalistes très poussés.
savoir qui vit où sur les campus. Et pour ça, ils n'ont pas fait semblant. Ils ont fait appel à des associations spécialisées, des experts reconnus dans leur domaine.
Comme qui, par exemple ?
Alors, pour les insectes pollinisateurs et les autres invertébrés, ils ont bossé avec le GRETIA, le groupe d'études des invertébrés armoricains. Pour les oiseaux, ben, logiquement la LPO. Bretagne Vivante s'est occupée des reptiles, dans le cadre d'un programme régional PO-Preptiles, et aussi de la flore, de la biodiversité en général. Pour les papillons de nuit, les hétérocères, qui sont souvent les grands oubliés, mais très importants écologiquement, c'est l'Atlas entomologique régional, l'AER. Et à Nantes, spécifiquement, vu la proximité des marais, il y a eu un inventaire des amphibiens par la Fédération des Amis de l'Erdre.
Une vraie armada d'experts! C'est impressionnant.
Oui, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas resté juste une affaire de spécialistes. Les personnels de l'école et même les étudiants volontaires ont participé à certaines de ces campagnes d'inventaire.
Ah, ça c'est bien. Ça permet d'impliquer tout le monde, de créer une sorte de culture commune autour de ces enjeux.
Exactement. C'est une façon de sensibiliser et d'impliquer la communauté de l'école directement.
Et j'ai vu aussi qu'il y avait une dimension participative avec une application.
Tout à fait. En plus de ces inventaires faits par les experts, il y a un inventaire participatif qui tourne sur les trois campus via l'application iNaturalist que beaucoup connaissent. N'importe qui, étudiant ou personnel, peut prendre une photo d'une plante, d'un animal et la signaler. En août 2024, il y avait déjà 662 observations pour 327 espèces différentes sur les trois sites.
Pas mal. Et ça permet de compléter les données des experts, j'imagine.
Oui, ça complète et ça sensibilise énormément. D'ailleurs, on voit que le campus de Nantes est particulièrement bien suivi ou peut-être particulièrement riche parce qu'il concentre presque 600 observations et 290 espèces juste via iNaturalist.
Et toutes ces données, collectées par les experts ou par les participants, elles servent à quoi ensuite ? Elles restent dans des tiroirs ?
Non, et c'est un point important. Les données des experts, celles du GRETIA ou de Bretagne Vivante par exemple, elles sont versées dans leur base de données naturaliste régionale. Et ces bases régionales, elles alimentent ensuite le système national d'information sur la nature et les paysages, qui est géré notamment par le Muséum national d'histoire naturelle. Donc, le travail fait à IMT Atlantique, il contribue à la connaissance globale de la biodiversité en France.
D'accord, ça s'inscrit dans quelque chose de plus large. Et j'imagine que ces inventaires ont dû réserver quelques surprises, découvrir des choses inattendues.
Ah oui, toujours. C'est ça qui est passionnant avec ces démarches. On découvre souvent une richesse qu'on ne soupçonnait pas, même dans des lieux qu'on pense connaître par cœur. Par exemple, ils ont identifié de nouvelles espèces d'abeilles sauvages sur les campus, en particulier à Brest, je crois.
Des abeilles sauvages, pas les abeilles des ruches.
Non, non, les abeilles sauvages. Il y en a des centaines d'espèces en France, très différentes les unes des autres. Et certaines de celles trouvées à Brest semblent être thermophiles.
Thermophiles, elles aiment la chaleur.
C'est ça, elles préfèrent les climats chauds. Alors, leur présence là-bas, ça pourrait être un indicateur intéressant à suivre avec le changement climatique. Est-ce que leur population augmente ? Est-ce que d'autres espèces du même type apparaissent ? C'est une piste de suivi.
Fascinant. On entend souvent parler du campus de Nantes dans les documents. On dirait qu'il a servi un peu de pilote, de laboratoire pour cette politique biodiversité.
Oui, on peut dire ça. Il y a eu un travail vraiment approfondi sur Nantes avec l'aide d'un bureau d'études spécialisé, Atelier Broussailles. Et ils ont mené une démarche participative assez poussée, avec des ateliers réunissant les usagers du campus, étudiants, profs, personnels, pour réfléchir ensemble à comment aménager les espaces verts, surtout au sud du site.
Et ce campus nantais, il a des particularités qui le rendent intéressant pour ce genre de projet ?
Oui, il a plusieurs atouts naturels. Déjà, une partie du campus est en ZNIF de type 2.
ZNIF, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Ça veut dire que c'est déjà reconnu comme un site intéressant.
Voilà, ce n'est pas une protection très forte, mais ça signale un intérêt écologique. Et puis on trouve des milieux assez variés, des talus bien exposés au soleil, héliophiles comme on dit, qui plaisent à certaines plantes et insectes. Il y a aussi une prairie mésophile, c'est-à-dire ni trop sèche ni trop humide, assez typique, une mare en bordure de forêt qui est connecté aux marais voisins, des petites mares temporaires qui sont hyper importantes pour certains amphibiens qui ne se reproduisent que là. Et il y a aussi un boisement à l'ouest qui est laissé en libre évolution, on n'y touche quasiment pas.
Et j'ai lu qu'ils conservaient même volontairement des zones de ronces, d'orties, de chardons. Ça va un peu à l'encontre de l'image du jardin propre, non ?
Complètement. Et c'est un choix assumé, très pertinent écologiquement. Ces plantes qu'on appelle souvent « mauvaises herbes », elles sont en fait super utiles pour la faune. Les ronces, c'est le gîte et le couvert pour plein d'oiseaux, d'insectes. Les orties, c'est la nourriture exclusive des chenilles de certains papillons très connus, comme le paon du jour. Les chardons, c'est un régal pour des oiseaux comme le chardonneret.
Donc, les garder, c'est un geste simple, mais efficace.
Exactement. Il y a même un vieux châtaignier classé patrimonial qui est le dernier souvenir d'une ancienne haie de bocage qui était là avant l'école. Ça raconte une histoire aussi.
Et la forme du terrain, la topographie, ça joue un voile ?
Oui, c'est un facteur clé à Nantes. Le campus est en pente douce vers le sud, du coup, l'eau de pluie qui tombe sur le site, elle s'écoule naturellement vers le marais de la Connardière et la rivière Erdre, juste à côté.
Deux zones naturelles importantes localement ?
Très importantes. Ce qui veut dire qu'il y a un enjeu fort sur la gestion de l'eau sur le campus. Pas tellement pour les inondations, mais surtout pour préserver la qualité de cette eau avant qu'elle n'arrive dans le marais et la rivière. Ça connecte directement le campus à son environnement.
Et comment ils gèrent cette eau concrètement ?
Plusieurs choses. Ils ont restauré la mare forestière qui existait déjà, pour qu'elle fonctionne mieux écologiquement. Et ils ont créé une noue.
Une noue ? C'est quoi ça ?
C'est une sorte de fossé très peu profond, large et végétalisé. Ça permet de récupérer l'eau de pluie qui ruisselle, de la ralentir, de la filtrer naturellement par les plantes et le sol. Et dans ce cas précis, ça permet aussi d'alimenter les petites mares temporaires qui sont en dessous. C'est de l'ingénierie écologique en quelque sorte.
Malin. Et ils ont fait d'autres plantations ?
Oui, ils ont planté des haies nourricières, c'est-à-dire des haies avec des arbustes qui font des baies, des fruits pour les oiseaux en automne et en hiver. Et aussi des arbres fruitiers, un petit verger.
J'ai aussi noté une expérimentation un peu bizarre, l'étrépage. Ça consiste en quoi ?
Ah oui, l'étrépage. C'est une technique de restauration écologique assez spécifique. En gros, on gratte la toute première couche du sol, sur quelques centimètres.
Pourquoi faire ça ?
Souvent, cette couche superficielle est trop riche à cause d'anciennes cultures ou d'engrais. En l'enlevant, on met à nu un sol plus pauvre. Et ça favorise des plantes plus rares, des plantes pionnières qui aiment les sols pauvres et qui sont normalement étouffées par les plantes banales sur sol riche.
D'accord, c'est pour recréer des pelouses plus diversifiées en fait. C'est pointu comme technique, hein ?
Oui, c'est une expérimentation pour voir si ça marche bien dans ce contexte. Ils réfléchissent aussi à un autre enjeu majeur, l'imperméabilisation des sols.
Ah oui, les parkings, les routes, tout ce bitume qui empêche l'eau de rentrer dans le sol.
Exactement. Ils regardent comment rendre ces surfaces plus perméables. C'est crucial pour l'eau, pour recharger les nappes, éviter que l'eau polluée parte directement dans les rivières. Mais c'est aussi lié au climat. Des sols perméables, avec de la végétation, ça aide à rafraîchir l'air en été, à lutter contre les îlots de chaleur. On voit bien le lien entre biodiversité et adaptation au changement climatique.
C'est vrai, tout est lié. Ils ont même réussi à intégrer la biodiversité dans des aménagements plus classiques, on va dire. J'ai lu l'exemple d'un amphi extérieur.
Oui, c'est un bon exemple. Ils ont créé un amphithéâtre en plein air, peut-être pour des cours dehors, qui sait. Et au lieu de gradins en béton, ils ont utilisé des gabions.
Des gabions, ces cages en métal remplies de pierres.
C'est ça. Et tous les petits trous, les interstices entre les pierres, ça crée plein de micro-habitats. Des abris pour les insectes, les araignées, parfois même des petits lézards ou des grenouilles. C'est tout bête, mais ça crée de la vie. Pareil, ils ont utilisé des tas de pierres, des enrochements sur certains talus. Ça stabilise le sol, mais ça crée aussi des habitats de rocailles, avec une faune et une flore particulières. Et c'est facile à entretenir.
C'est malin d'intégrer ça dès la conception. Tout ça a l'air très positif. Mais ils ont aussi eu le courage de remettre en question certaines idées reçues, les fausses bonnes idées pour la biodiversité.
Oui, et ça, c'est vraiment un signe de maturité dans la démarche, je trouve. Un exemple frappant, ce sont les ruches.
Les ruches d'abeilles domestiques ? On pense souvent que c'est LA bonne action à faire pour les pollinisateurs.
Justement, c'est l'idée reçue. Mais à Nantes, ils les ont retirées. Pourquoi ? Parce que de plus en plus d'études montrent qu'une trop forte densité d'abeilles domestiques, ça peut créer une compétition pour les fleurs avec les abeilles sauvages locales. Or, ce sont ces centaines d'espèces d'abeilles sauvages qui font le gros du boulot de pollinisation, on estime à 85%. Donc, paradoxalement, enlever les ruches, ça pouvait aider la biodiversité locale des pollinisateurs sauvages.
C'est complètement contre-intuitif. Hein. Il fallait oser.
Oui. Et dans le même esprit, ils sont prudents avec les hôtels à insectes. C'est très à la mode, mais leur efficacité réelle est débattue par les scientifiques. Ça peut même parfois concentrer des maladies ou des prédateurs. Donc, ils n'en font pas une priorité absolue.
D'accord. Et le lierre, le fameux lierre qui fait si peur aux propriétaires.
Ah, le lierre, souvent arraché, accusé de tous les maux. Eh bien là, au contraire. Il est reconnu pour ce qu'il est, une plante extrêmement utile. Il offre un abri toute l'année, il fleurit très tard en saison, ce qui est vital pour les insectes avant l'hiver, et ses fruits nourrissent les oiseaux en fin d'hiver quand il n'y a plus grand-chose d'autre. Et non, ils n'étouffent pas les arbres sains.
Bon, à savoir. Cette capacité à aller contre les idées reçues, ça montre qu'ils ont vraiment intégré la réflexion écologique, au point même de modifier ou d'annuler certains projets d'aménagement, c'est ça ?
Absolument. Et ça, c'est peut-être le signal le plus fort de leur engagement. Par exemple, il y avait un projet de terrain de foot en gazon synthétique. Il a été abandonné.
Ah oui, le synthétique, c'est pas très biodiversité compatible.
Pas du tout. C'est imperméable, ça chauffe énormément, c'est une source de pollution microplastique. Bref, c'est un désert écologique. Donc, abandonner ce projet, c'est un choix fort.
Et pour cette même zone, il y a eu une autre décision importante concernant l'éclairage la nuit.
Exactement. Il a été décidé de ne pas éclairer cette zone la nuit, pour préserver ce qu'on appelle la trame noire.
La trame noire, ok. Oui. C'est l'obscurité, en fait.
Oui, c'est un réseau d'espaces suffisamment sombre pour que la faune nocturne puisse vivre, se déplacer, chasser. C'est essentiel, notamment pour les chauves-souris. Et comme ils ont détecté des chauves-souris sur le site, et toutes les chauves-souris sont protégées en France, eh bien, la décision logique, c'était de limiter au maximum la pollution lumineuse.
C'est un arbitrage clair en faveur de la faune nocturne. Il y a eu d'autres exemples de projets revus ?
Oui, il y a l'exemple d'un espace de musculation en plein air, un street workout. Au départ, il était prévu en plein milieu de la prairie mésophile, un habitat intéressant. Finalement, après les diagnostics écologiques, le projet n'a pas été annulé, mais il a été déplacé sur une zone moins sensible, considérée comme écologiquement neutre, pour préserver la prairie.
D'accord. Ce sont ces ajustements, ces renoncements, parfois, qui montrent que la biodiversité pèse vraiment dans la balance au moment des décisions.
C'est ça. Ce n'est pas juste un vernis vert qu'on ajoute à la fin. Ça influence les projets dès le départ.
Et avec tous ces efforts, est-ce que ça paye ? Est-ce qu'on trouve des espèces vraiment intéressantes sur ces campus maintenant ?
Oui, les résultats sont là. Et ils sont parfois assez étonnants pour un environnement de campus. À Nantes, notamment, les inventaires ont révélé des espèces protégées ou remarquables. Chez les insectes, par exemple, des longicornes. Ce sont ces grands coléoptères, souvent liés aux bois morts ou aux vieux arbres. Et parmi eux, le fameux grand capricorne.
Le grand capricorne, celui qui est protégé au niveau européen ?
Lui-même, Cérambyx cerdo, sa présence est confirmée sur le campus de Rennes et elle est en cours de confirmation à Nantes. C'est une découverte majeure.
Incroyable ! Un grand capricorne sur un campus d'ingénieurs et chez les reptiles !
Là aussi, de belles surprises. La Vipera aspic, Vipera aspis, a été observée. C'est une espèce protégée qui va même faire l'objet d'un plan national d'action entre 2025 et 2030 pour sa conservation.
Une Vipera aspic sur un campus en périphérie de Nantes ? C'est rare, non ?
C'est assez notable, oui. Ça montre que le site a conservé des habitats de qualité pour elle. Et ils ont aussi trouvé la couleuvre d'Esculape, Zamenis longissimus, un autre serpent protégé.
Quand on trouve ce genre d'espèces qui ont des besoins écologiques précis, ça veut dire que le milieu est vraiment intéressant.
Exactement. Ça valide la pertinence des actions de préservation et de restauration des habitats menées sur le campus.
C'est assez bluffant tout ça. Si on essaye de prendre un peu de recul, qu'est-ce qui fait la force de cette démarche à IMT Atlantique, selon vous ?
Je pense que c'est la cohérence et surtout la connexion. Les actions sur les campus, elles ne sont pas juste des actions isolées dans leur coin. Elles sont connectées à plusieurs niveaux. D'abord, connectées à l'environnement géographique autour. L'école ne regarde pas que son nombril, elle pense en termes de continuités écologiques.
C'est-à-dire, comment le campus s'intègre dans le paysage ?
Oui, comment les espaces verts du campus peuvent faire le lien avec les zones naturelles voisines, le marais de la Coudardière, le grand parc de la Chantrerie ou même le campus d'Oniris, l'école Veto juste à côté. L'idée, c'est de participer à la trame verte et bleue locale, ce réseau qui permet aux espèces de circuler.
D'accord. Première connexion, le territoire.
Deuxième connexion, l'expertise scientifique externe. On a vu les associations naturalistes pour les inventaires. Mais il y a aussi, par exemple, un partenariat avec Oniris, l'école voisine, qui assure la direction scientifique d'un projet de recherche sur les abeilles sauvages du campus. L'école sait aller chercher l'expertise là où elle est.
Logique. Et la troisième connexion ?
La troisième, et c'est peut-être la plus importante pour une école, la connexion avec la formation des étudiants. Tout ça n'est pas déconnecté de la mission première de l'établissement.
Justement, comment ça se traduit dans la formation des ingénieurs ? Ce n'est pas forcément évident de former des ingénieurs généralistes à la biodiversité.
Non, c'est un vrai défi. Et l'école s'y est mise. D'ailleurs, le parcours de la personne qui pilote beaucoup de ses actions à l'école, Frédéric Payu, est intéressant. Il s'est lui-même formé spécifiquement. Il a fait un diplôme universitaire. Et son mémoire de DU portait justement sur cette question. Comment on fait pour former à la biodiversité des étudiants ingénieurs dans une école qui, à la base, est plutôt éloignée du vivant ?
Et ce travail de réflexion a débouché sur des choses concrètes dans les cursus ?
Oui, ça a directement nourri la réflexion pédagogique et ça a contribué à mettre en place des enseignements spécifiques depuis la rentrée 2023-2024. Par exemple, tous les nouveaux étudiants qui arrivent, maintenant ils font une sortie sur le terrain, sur le campus, avec un expert botaniste de Bretagne vivante.
Une première approche très concrète dès l'arrivée.
Voilà, une immersion directe.
C'est intéressant de voir comment une démarche individuelle de montée en compétences, finalement, elle bénéficie à toute l'institution.
Tout à fait. Au-delà du mémoire, ce qui est important, c'est cet engagement de l'école incarné par cette personne, mais soutenu par l'institution, à développer sa propre compétence scientifique sur ces sujets. L'objectif, il est double. D'abord, pouvoir parler de biodiversité de manière crédible en interne, avec les étudiants, les collègues, savoir de quoi on parle, et ensuite pouvoir dialoguer efficacement avec les experts externes, les naturalistes, comprendre leurs diagnostics, leurs recommandations, co-construire les actions avec eux. C'est pour ça que cette personne a continué à se former, avec un DSU en biodiversité et territoire, des MOOC, c'est la création d'une expertise interne.
Une expertise indispensable pour piloter ce genre de projet sur le long terme. Et les étudiants, ils ne font pas que recevoir des cours, j'imagine. Ils participent activement ?
Oui, ils sont vraiment mis à contribution. On a parlé de leur participation volontaire aux inventaires. Ils travaillent aussi sur des projets concrets liés à la biodiversité dans le cadre de leurs cours, comme l'unité d'enseignement, développement durable et responsabilité sociétale. Il y a aussi un potager en permaculture sur le campus qui est géré par des étudiants. L'idée, c'est vraiment de lier la théorie et la pratique sur leur propre lieu de vie et d'études.
Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça. On a donc AIMT Atlantique, une démarche qui part d'un engagement stratégique clair, la politique TESS. Cet engagement, il est basé sur de la science, les diagnostics de l'IBES, les inventaires locaux faits par des experts. De là découlent des actions très concrètes, adaptées à chaque campus. On a bien vu l'exemple de Nantes. Ça va de la gestion différenciée à la restauration de mares, en passant par des choix d'aménagement forts et même une remise en cause des fausses bonnes idées. Et tout ça s'est intégré à la mission principale de l'école, former des ingénieurs qui soient sensibilisés et outillés sur ces enjeux de biodiversité. C'est bien ça ?
C'est une excellente synthèse, oui. Et j'ajouterais que c'est un projet vivant, qui évolue tout le temps. Les inventaires continuent, ils vont peut-être révéler d'autres choses. La gestion est adaptative, comme on dit. On essaye, on observe, on apprend, on ajuste. C'est vraiment un laboratoire à ciel ouvert. Et ça montre bien que même des espaces très marqués par l'homme, comme un campus universitaire, peuvent jouer un rôle important pour la biodiversité. La biodiversité ordinaire, celle du quotidien, mais aussi parfois, on l'a vu, pour des espèces plus rares ou protégées.
C'est vrai que cette exploration des initiatives d'IMT Atlantique, c'est assez inspirant. Et ça ouvre une réflexion plus large, finalement. On peut se demander comment d'autres organisations, des entreprises, des collectivités même, des associations, pourraient s'inspirer de cette approche, quel que soit leur secteur, la nature de leurs espaces, des bureaux, des usines, des magasins, des parcs. Quel potentiel écologique on ignore peut-être juste là, sous nos yeux, dans les lieux qu'on fréquente tous les jours? Et comment on pourrait collectivement faire l'effort de le découvrir, de le protéger et peut-être même de le développer? C'est une question intéressante à garder en tête, je crois, pour chacun à son échelle.